Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus à l'émission. Ce matin, on va parler de ce million d'espèces animales et végétales menacées sur la planète. En fait, on va surtout se demander si, avec cette nouvelle sortie cette semaine de cette grande étude internationale, est-ce qu'il y a encore des climato-sceptiques? Et Bernard Voyer sera là pour nous parler de ce sujet. De la grande visite aussi, Mylène Paquette, cette jeune femme qui nous a éblouis, impressionnés il y a quelques années en traversant l'Atlantique à la rame. Plusieurs pensaient que c'était il y a 2-3 ans. Ça fait 6 ans déjà, 6 ans, 2013. Mais d'abord, est-ce que vous avez déjà vécu ou connu des amitiés toxiques? Ou même une peine d'amitié. On dit que l'amitié, c'est une valeur très importante, essentielle même dans nos vies. Certains vont jusqu'à valoriser l'amitié plus que l'amour. Avoir un ami à l'écoute qui nous comprend, nous aime tel qu'on est, sans pression, rempli de bienveillance envers nous, nous envers lui, c'est formidable. Mais on fait quoi quand cette amitié si merveilleuse devient toxique? Comment reconnaître la toxicité d'un lien? On va tenter de voir tout ça avec nos trois invités. D'abord, Denis Doucet, qui est psychologue, qui se joint à nous par téléphone. Bonjour, Denis Doucet.
Bonjour.
Et puis, la journaliste et auteure Geneviève Saint-Germain, que vous connaissez très bien. Bonjour Geneviève. Bonjour. Et le comédien et conférencier Patrice Cocreau.
Bonjour.
Bonjour, Patrice. On peut dire auteur aussi.
Bon, oui, absolument.
Hein, absolument. Ben, oui. Tous les talents. Les invités ont tous les talents. C'est extraordinaire. Oui. Je commencerai par Denis Doucet. Denis, d'abord, avant de parler de la toxicité de l'amitié, parlons donc de l'importance de l'amitié dans nos vies. C'est important de comprendre d'abord pourquoi on s'entoure d'amis. Il y a toutes sortes de raisons.
Oui. Ben, l'amitié, ça sert... L'être humain est fait pour avoir des liens d'appartenance. Fait que l'amitié élargie nous permet de sortir de notre milieu familial. Ça élargit nos liens d'appartenance. Puis ça permet de stabiliser, comme vous avez dit en introduction, tout le côté de « je suis une personne valable, je suis une personne qui vaut la peine de côtoyer ». Fait que le fait que des gens me côtoient puis veulent être amis avec moi, ça vient me confirmer, me calmer dans mon identité personnelle aussi.
Oui, en effet. Et reconnaître une amitié toxique, d'abord, c'est pas toxique dès le début. Je veux dire, on n'irait pas vers ces gens-là si c'était des gens toxiques et qu'on le savait dès le départ. Comment on fait pour reconnaître une amitié qui est en train de devenir toxique?
Moi, je vous dirais, si vous, dans l'amitié, vous commencez à avoir des doutes sur la confiance que vous faites à la personne, si vous avez l'impression qu'elle vous exerce des pressions, comme vous l'avez dit, ça peut prendre plusieurs mois avant qu'elle commence à le faire, si elle est décevante, si elle présente, par exemple, des fréquences d'accrochage d'opinions qui tournent mal, qui se résout jamais, qui virent en chicane, si l'autre présente des comportements de bouderie, de jalousie, si vous avez le sentiment que l'amitié est en sens unique, ou vous avez l'impression souvent de marcher sur des œufs auprès de l'autre personne, elle ne parle pas de façon respectueuse, les fameuses remarques et critiques à gauche et à droite qu'elle lance sur tout ce qu'on lui dit, puis on n'a pas un sentiment de liberté avec cette personne-là. On se sent pas pouvoir être vraiment complètement soi-même. Puis, des fois, comme ils ont tendance à le faire de façon graduelle, ben c'est nos autres amis ou notre famille qui s'en rend compte avant nous.
Ça, c'est vrai. Geneviève Saint-Germain et Patrice Cocreau, mes deux autres invités, ont tous les deux vécu des relations toxiques. Geneviève, d'abord.
Mais la relation toxique en amitié, en fait, c'est souvent la relation déloyale. Et que je pense que, rendu un certain âge, on a vécu notre lot. Je sais que c'est un grand sujet qui se discute dans les cabinets de psy, c'est-à-dire toutes les fois où on s'est senti trahi. Et quand on est trahi par des amis, généralement les gens avec qui on n'a rien à voir.
On ne se sent pas trahi, ben non.
Mais on peut être trahi de mille façons. On peut être trahi affectivement et professionnellement. Et on est dans un milieu, tu me diras si c'est ton expérience, où faire la part des choses entre les deux types d'amitié, les amitiés d'intérêt et les véritables amitiés et les trahisons, disons que ça fait pas mal partie de mon expérience.
Ouais. Et Patrice, ben toi, c'est pas compliqué. Tu as dit à notre recherchiste hier, des amitiés toxiques, je pourrais en parler pendant des heures.
Oui. Non, j'ai connu et j'ai fait beaucoup de ménage. On s'en parlait avec Geneviève avant l'émission. J'ai appris beaucoup au fil du temps. C'était toute une école, mais moi qui étais de type fusionnel, qui avait beaucoup d'attentes, j'ai ma part de tort également, mais j'ai appris à prendre du recul de la perspective. Puis dès qu'on rentre dans un mode relationnel basé sur la fusion et donc la confusion. On n'a plus de recul, on n'a plus d'espace, un problème d'espace. On sent qu'on négocie avec sa propre nature, avec ses propres élans, parce qu'on ne veut pas déplaire à l'autre. Souvent, moi, j'avais le syndrome du sauveur. Je voulais sauver l'autre, porter l'autre.
Presque comme en amour, dans le fond.
Oui, absolument. Puis à un moment donné, tu te rends compte, tu te dis, mais ça me pèse. Ça ne me porte pas, ça me pèse.
L'amitié, en fait, c'est aussi beaucoup une affaire de réciprocité.
Oui.
Et quand tu es un sauveur, tu n'es pas dans la réciprocité. C'est-à-dire que toi, tu écoutes, l'autre n'écoute pas.
Exact.
Ça arrive souvent. Puis nous-mêmes, parce que ça nous valorise d'être sauveur.
Mais oui.
Je sais de quoi je parle. Et puis après, on se fait des attentes. On se crée des attentes, oui, en étant ce genre de sauveur. Puis après ça, la personne, elle n'a pas envie de répondre à ça nécessairement quand elle va mieux, là, disons.
Oui.
Puis c'est là qu'on a les plus grandes déceptions.
Ouais. Les amitiés à géométrie variable.
Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle les amitiés circonstancielles. Des
exactement.
Gens avec qui, si vous m'aviez dit un jour que je ne serais plus amie avec telle ou telle ou telle personne, j'aurais dit c'est impossible,
exact.
C'est ma grande chum.
Mais ça, c'est
pourtant...
notre milieu beaucoup.
Pardon?
C'est notre milieu beaucoup qui crée ça.
Oui,
dans la mesure où on a
vrai.
Des rapports intenses avec les gens quand on travaille, oui, avec eux. On a l'impression d'une fusion quand on partage un micro, quand on travaille ensemble, comme des comédiens. Je veux dire, on a cette impression-là,
oui,
mais ça ne dure que c'est des amitiés d'intérêt que j'appelle.
Bon,
oui.
On a l'impression d'une filiation.
D'une filiation, exactement.
Et ça, c'est très...
Comme la même famille, on fait partie de la même famille.
Ah, on a des atomes crochus.
Ça devient une famille. Ça devient une famille. Quand on fait des soupers, on pense que c'est notre famille,
oui,
choisie qu'on,
oui,
invite.
À la vie, à la mort.
On les a voilà, on les a choisis. Denis Doucet, est-ce que ça vous arrive dans votre cabinet d'avoir des gens qui, eux, se disent... être ami toxique? Parce qu'en général, quand on pense à l'amitié toxique, on pense à ce qu'on subit. Mais est-ce,
oui,
que ça peut arriver que quelqu'un dise « Non, non, moi, regarde, je suis un ami épouvantable pour cette personne-là » ou quelque chose comme ça, ou c'est à peu près inexistant?
Ça arrive, évidemment. Vous aurez deviné qu'ils sont moins nombreux que ceux qui me parlent de subir l'amitié toxique.
Oui.
Mais ça se présente.
Parce que souvent, la personne ne s'en rend pas compte qu'elle est toxique.
C'est ça. Fait que généralement, c'est des prises de conscience qui surviennent quand eux perdent une relation qui était importante à leurs yeux.
En effet.
Ça les déstabilise et là, certains d'entre eux vont se remettre en question.
Puis en vieillissant aussi, on remet des amitiés en question. On peut avoir des amis depuis de nombreuses années. Puis il y a toujours quelque chose qui nous a fatigués dans cette relation-là où on n'était pas heureux, où on n'était pas rempli, où on n'était pas nourri par cette amitié-là. Au contraire, on a l'impression d'être toujours, je dis l'expression vulgaire, sucé par,
oui,
les énergies.
Drainé.
Oui, drainé.
Drainé, c'est,
oui,
c'est le mieux. C'est le meilleur mot. D'être drainé par cette amitié-là. Puis en vieillissant tranquillement, chacun, on change, on fait des prises de conscience, puis on se dit, mais je peux plus. C'était correct quand j'avais 14 ans parce que je connaissais pas mieux, parce que j'étais amie avec cette,
oui,
personne-là, mm-hmm, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on avait des bébites communes.
Oui.
Mais rendu à 40 ans, c'est plus endurable.
Puis moi, l'autre exemple qui me vient, puis mon Dieu, si on peut aider des gens à la maison à mieux reconnaître les amitiés qui ne sont pas bonnes pour nous, ce sont ces gens, vous savez, avec qui vous allez luncher. Et tout le long du lunch, eux sont tellement mal et bourrés d'angoisse, d'anxiété, que vous sortez du lunch, puis eux sont super bien, de bonne humeur,
ouais,
la vie est belle, ils vont t'écrire le lendemain au téléphone et te dire hey, « Merci, ça a été vraiment
des vampires
fun. » Mais toi, t'es mal.
C'est
depuis la veille, t'es mal.
Des relations qui te pèsent et qui ne te portent pas. Puis justement, il n'y a rien de mutuel. Une des relations que j'ai vécues qui s'est terminée, il y avait tellement d'humour. C'était un liant extraordinaire, l'humour.
Oui.
Et c'était,
mm-hmm,
heureux, c'était formidable. On riait et tout ça. Puis là, tout à coup, ça s'est versé dans autre chose. Là, c'est devenu beaucoup plus sombre et basé sur des modes de calcul et des modes des déceptions, des trahisons, justement.
Mais toujours dans l'humour, devenant humour noir ou même pas?
Oui,
genre,
des fois, humour noir, des commentaires,
peu,
des petits commentaires, des sous-entendus. Moi, dès qu'une relation est basée sur faire sentir à l'autre, mais ne pas dire, moi,
exactement,
c'est un indicateur incroyable.
Moi, j'aime ça. Faire sentir à l'autre.
Faire sentir à l'autre, mais jamais dire. Combien de fois, tu parlais de lunch, je vais au restaurant, j'entends des gens, en tout cas, j'y ai pas dit, mais je pense qu'elle l'a bien compris. Je dis, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Dis-y à la personne, si t'as une relation basée sur la franchise et la transparence, et non pas sur l'apparence, alors elle, au moins, le courage de ce que tu penses, et vas-y, parce que de là va naître une amitié beaucoup plus profonde et directe.
Mais il y a une violence dans le non-dit.
Mais oui.
Il y a une violence terrible, dans le fond. C'est
pour celui qui l'a subi.
Pour celui qui l'a subi.
Ou qui l'a subi, le nom-dit.
Celui,
oui,
qui le nom-dit, oui. Puis celui qui le crée, il ne crée pas innocemment. C'est agressif.
Oui.
Il y a une forme de non-dit qui est agressif, de sous-entendu. Moi, le sous-entendu, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui reste insensible au sous-entendu.
Oui.
C'est
moi,
une forme de manipulation incroyable.
Oui.
Denis Doucet, vous,
oui,
êtes évidemment au téléphone, vous êtes psychologue, vous êtes là comme un peu notre appui aussi, là,
oui,
comme spécialiste. Mais est-ce que je peux vous demander, vous n'êtes pas obligé de me répondre, est-ce que vous avez connu des amitiés toxiques ou des peines d'amitié?
Oui, oui. Je connais pas grand monde qui n'en a pas croisé, que ce soit dans le milieu de travail ou dans la vie personnelle, oui, ça s'est présenté. Puis quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup moins bien armé pour les détecter et parvenir à m'en éloigner. Mais là, c'est sûr qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus solide pour ça. Puis pour souligner un petit peu, il y a juste un petit terme clinique qu'on utilise dans ce qui vient d'être dit par vos deux autres invités. Quand on a souligné, il y a quelque chose d'agressif en arrière, c'est que c'est l'attitude des sous-entendus, c'est passif-agressif.
Oui, c'est
qu'on
ça. Ben oui. Oui.
Fait que de façon passive, on donne des coups de pique à l'autre personne, tout en étant capable de le nier tout de suite après.
Absolument.
Oui, parce que c'est
rigolant.
Ça. Oui, parce que si vous confrontez cette
bien, joke,
oui, parce que si vous confrontez cette personne, donc, donc, il se passe que non, il se passe ça, voyons. Non,
moi, ce qu'on me répondait, c'est ben voyons.
Oui, c'est ça. Genre, c'est
je me sentais doublement mal.
C'est ça, fait paranoïaque, etc. On va s'arrêter.
Oui, on m'a dit ça. En plus, c'était parano.
Ben c'est ça. On va s'arrêter le temps de la pause. Ça aussi, je vais revenir là-dessus. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que ça se peut qu'on l'invente aussi dans certains cas? Et quoi faire justement? Est-ce qu'on se sauve à toute jambe ou est-ce qu'au contraire, on essaie de discuter. On revient tout de suite après la pause. Si vous voulez vous mêler à notre discussion sur l'amitié toxique, 514-790-9850. Je répète, 514-790-9850. Sur les amitiés toxiques, ce matin, comment on fait pour reconnaître une amitié toxique? Qu'est-ce qu'on fait quand on vit une amitié toxique? On va venir dans pas long à comment sortir de ça. On est en compagnie de Denis Doucet, psychologue, qui est au téléphone. Geneviève Saint-Germain, que vous connaissez très, très bien, auteur et conférencière. Et Patrice Cocro, que vous connaissez aussi très, très bien comme comédien, conférencier et auteur. Pendant la pause, on parlait entre nous du fait que parfois, des grands amis avec qui on part en voyage se révèlent autres ou peut-être que c'est nous qui nous révélons autres, qui sait.
Vous voulez connaître quelqu'un, partez en voyage. Ou en tournée. Moi, des gens, j'ai vu vraiment c'est la meilleure façon de savoir à qui vous avez affaire. Partir en voyage.
Mais c'est ça, parce qu'on pense que partir en voyage avec quelqu'un qu'on aime, ça... On pense
prenez
que partir en voyage...
voyage. Non,
ouais,
non.
Partir en voyage... Mais moi, ça m'est arrivé dans le passé de partir en voyage avec quelqu'un et que ça se gâche. Puis je trouve ça tellement plate que maintenant, on finit par se dire « Écoute, on va partir tout seul. »
Ouais. Ouais.
Donc, pour toi aussi,
parce Geneviève... Parce que dans le quotidien, c'est plus difficile. Puis il y a des choses qu'on apprend justement en étant proche des gens. Moi, s'il y a quelque chose qui est un gros signal d'alarme, c'est les gens qui sont radins. Et ça, quand on part en voyage à quelqu'un, c'est un excellent endroit pour se rendre compte. Les gens qui cassent les scènes en 10, qui veulent toujours tout séparer, mais toujours en payant pas leur part, ouais. Tout à fait, qui cherchent à gratter sur tout. Les gens, ça, je veux dire un truc épouvantable, mais je le crois, c'est mon expérience de vie. Les gens qui sont gratteux, qui sont radins, c'est des gens qui ne peuvent pas aimer. Ils ne peuvent pas être amis.
Mais ça ne circule pas, ils retiennent tout.
Ils retiennent tout. Fait qu'ils ne peuvent pas être des bons amis. C'est impossible.
Denis Doucet, je veux vous entendre.
Oui. Ben, ce qui est en train d'être décrit, là, c'est des profils qui ont un scénario narcissique.
Oui.
Donc, ils sont centrés, très égocentriques, très centrés sur eux-mêmes. Fait que c'est sûr que c'est... Puis, pourquoi en voyage, on est plus sujette à s'en rendre compte? C'est qu'on rentre... L'amitié entre dans une nouvelle catégorie où on est dans l'intimité.
Oui.
C'est l'intimité de proximité obligée. Parce que là, on ne peut pas s'en aller ailleurs. On ne peut pas juste dire on va prendre un café une heure puis on se reverra dans deux semaines. Fait que la proximité obligée, ça force l'autre à devoir effectivement se révéler dans toutes ces petites tactiques agaçantes là, qui finissent par être grugeantes d'énergie.
Oui, et puis j'imagine qu'il faut s'inclure dans ça aussi, parce que peut-être qu'on est énervant pour l'autre aussi.
Absolument.
Qui sait, hein? Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui est très solitaire, puis soudainement qui est en voyage avec quelqu'un qui ne lâche pas deux secondes. Ben, il
personne n'a le monopole de la vertu, de l'équilibre.
Alors, mais il y a des défauts plus fatigants que d'autres.
Je veux entendre Daniel qui est au téléphone. Daniel, bonjour.
Salut, quand vous avez l'impression de tirer un boulet en amitié, c'est pas drôle. Puis le problème, c'est pas les gens toxiques, c'est quand toi, t'es intoxiqué par ces gens-là. Puis c'est de savoir comment s'en départir. Mais d'un coup, vous allez commencer à couper ces relations-là. Là. Ben, vous allez être lucide de plus en plus, vous allez les reconnaître facilement si ces gens sont compatibles avec vous ou non. C'est ce que moi, je pense. Ou un ami, là, comment vous pensez que c'est un bon ami, il a l'air bien au début, mais quand c'est trop bon, là, ouvrez l'œil, parce que ces gens-là, quand ils commencent à vous critiquer, c'est jamais bien ce que vous faites, ben ça commence à être toxique. Ouvrez les yeux.
Merci, Daniel. Merci beaucoup. Caroline, au téléphone. Bonjour, Caroline.
Oui, bonjour. Alors moi, j'ai vraiment grandement besoin de conseils parce que on me dit que j'étais une patate chaude dans mes mains en ce moment. J'ai quelqu'un avec qui je travaille, que je travaillais en fait, et puis je l'évitais parce que je reconnaissais qu'elle prenait beaucoup, beaucoup d'énergie. Elle était désagréable parfois aussi, mais je suis tombée malade l'an dernier. J'ai su que j'avais un cancer et puis elle m'a contactée et j'ai trouvé ce geste très humain. Elle a voulu savoir comment j'allais et tout. Donc, ça a été comme un peu sa porte d'entrée avec moi. Depuis, ben, je peux même pas appeler ça une amitié, en fait. C'est qu'elle, c'est une personne qui connaît pas la vraie amitié. Je pense qu'elle a vécu une vie assez difficile. Elle n'en a pas d'amis.
Mais là, vous essayez de vous en sortir, Caroline?
Je réussis pas, c'est ça qui je trouve que dans le fond il faut que j'apprenne hein, de ma vie, de ma maladie, de pouvoir choisir les gens qui me font du bien, puis pas les gens qui me siphonnent mon énergie. Mais je travaille avec cette personne.
Monsieur, on s'est vu. On vous demandait à Denis, notre psychologue, qu'est-ce qu'il pourrait vous recommander pour vous aider à prendre une distance?
D'accord.
Si vous dites que c'est une personne avec qui vous travaillez, c'est ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. Puis là, on n'est pas en thérapie, on est juste à la radio. Mais je vous dirais, en premier lieu, essayez de prendre une posture psychologique intérieure qui est plutôt de nature seulement rationnelle et neutre dans vos échanges avec cette personne-là. Réduisez au minimum tout ce qui est des communications à caractère affectif. Parce que si vous donnez des communications vraiment plus personnelles, plus intimes, même sur votre état de santé ou quoi que ce soit, ça donne de la prise à l'autre. Puis essayez de vous rappeler, lorsque vous entrez au travail, de dire « je suis plus importante et mes valeurs, mon identité, c'est plus important que les échanges que je vais avoir aujourd'hui ». Puis comme ça, ça aide à filtrer, de ne pas amener avec vous dans votre sac à dos, à la maison, les inconforts des échanges que cette personne-là peut avoir amorcés. Fait que vous réduisez les moments de contact au minimum, puis vous restez fonctionnel seulement sur la vie professionnelle.
OK.
Est-ce que là...
si je peux juste me permettre de vous dire une autre chose à propos de cette personne, c'est que je trouve des fois qu'elle est dans un monde ailleurs, comme elle voit la vie comme un rêve un peu. Elle me dit que je suis comme sa sœur. Mari m'a invitée en disant j'organise quelque chose avec ses amis les plus proches, mais je me considère tellement pas comme une amie plus proche, donc je trouve ça un peu...
Vous êtes comme coincée là-dedans, Caroline. Vous êtes, c'est comme des ventouses, là. C'est comme une pieuvre avec des ventouses qui vous tient. C'est très étouffant. Denis, je vous laisse conclure. Et les lignes sont assez remplies, fait qu'on va passer à un autre appel tout de suite après, mais je vous laisse conclure.
Pour la partie, vous recevez une invitation, puis vous avez l'impression qu'il y a une distance astronomique entre ce qu'eux disent et ce que vous dites. Au début, ça dépend de votre solidité psychologique. Si vous vous sentez solide tout de suite pour dire « Non, moi, je me considère pas dans ce réseau-là, je vais passer mon tour », vous le faites. Si vous vous sentez pas assez solide pour l'instant parce que vous êtes inconfortable, confuse, prenez un prétexte quelconque pour ne pas vous présenter. Je vous conseille de pas y aller parce que vous allez vivre une expérience qui va être très énergivore, puis très avalante, puis ça va vous rendre la tâche plus dure encore après pour arriver à vous en débarrasser.
En contradiction avec ce qu'elle ressent. Alors voilà, ben merci beaucoup de votre appel, Caroline. Bertrand au téléphone. Bertrand?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je suis dans le milieu des valeurs mobilières depuis 15 ans et j'écoutais votre chronique ce matin parce que, à travers mes amis, j'ai rencontré une panoplie d'individus du humanoïde avec tous les traits que vous mentionnez. Et je me suis rendu compte qu'au niveau personnel et professionnel, parce que je fais 60 heures semaine, toutes les semaines, depuis 15 ans, et j'ai une proximité presque infectieuse avec les personnes avec qui je travaille. Et je me suis rendu compte que bien souvent, les gens qui vous disent qu'ils sont des amis proches ou quoi que ce soit, j'ai trouvé une façon de pouvoir, les filtrer. Premièrement, le matin, moi, quand je pars, je me dis que j'ai un script à jouer, un peu comme un avocat qui s'en va se présenter devant le juge.
Oui.
J'ai une identité au travail, j'ai une identité à la maison.
Mais vos amis sont au travail?
Mes amis, en grande partie, sont au travail, mais c'est des amitiés, en réalité, qui ont été formées à travers le travail.
Ça, j'aimerais bien entendre Geneviève Saint-Germain sur les amitiés au travail, parce que je pense, Geneviève, tu as une opinion là-dessus.
Mais je sais pas si j'ai une opinion, mais en fait l'amitié au travail dans certains milieux, le monsieur dit qu'il rencontre plusieurs personnes, il trouve ça infectieux.
Quand on travaille soit c'est ça, incestueux, j'ai cru comprendre.
Ouais. Incestueux ou infectieux?
Moi j'ai compris incestueux, affectueux.
Qu'est-ce que vous avez dit
sur ces amitiés-là?
Ben, en réalité, ces amitiés-là sont souvent basées sur une production au niveau des valeurs mobilières. Alors, c'est je joue avec l'argent du matin au soir.
Okay.
Et les compétitions au niveau canadien sont très, très serrées.
Ah, c'est okay. ça. Donc, okay. c'est un rapport de compétition, mais oui. finalement, tout le monde se fait croire qu'il est ami. Oui. Comme dans le beau milieu des artistes. Oui. On est tous amis, mais on est tous en compétition. C'est-tu le fun? C'est difficile de faire la part des choses.
Tout à fait.
Puis, comme on ne peut pas aller à un bureau tous les jours, puis pas avoir de liens humains avec les gens, pas du tout. On veut avoir des liens. Mais moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est ce que je trouve difficile, c'est la possibilité d'avoir un vrai lien avec les gens. Et en vieillissant, je m'aperçois que c'est de plus en plus difficile. Un vrai lien. C'est quoi un vrai lien? On le sait pas trop, mais on le sent. Puis je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'affaire la plus difficile, c'est d'arriver à avoir un lien avec quelqu'un.
D'abord, je dirais d'avoir un lien avec soi-même, avec sa propre nature, pour avoir être relié à l'autre sur des valeurs fondamentales. Je trouvais intéressant ce que monsieur psychologue Denis Doucet disait en parlant suggérait à la dame d'avoir une posture intérieure et tout ça. Tout ce qui relève pour moi de l'équilibre, parce que des fois dans des amitiés où on a de grandes promesses, c'est pour à la vie à la mort, mais on peut j'ai l'image de l'artiste de cirque. Le funambule qui va avoir un point d'appui au départ pour s'exercer. Mais à un moment donné, si ton point d'appui devient le centre de ta vie, le point d'appui extérieur, si la personne se tasse, tu vas chuter. Et donc, on a tout intérêt à cultiver son propre équilibre, sa propre indépendance de pensée pour ne pas être tributaire de la manipulation de l'autre qui sent très bien quand on est décentré, qui va s'en servir pour s'immiscer dans notre vie et empoisonner notre existence.
Il y a de moins en moins de gens qui sont capables d'avoir des liens parce qu'ils n'en ont pas avec eux-mêmes. Si tu n'as pas de lien avec toi-même, tu ne peux pas en avoir avec les autres.
Absolument.
On s'arrête sur ces grandes pensées philosophiques. De retour tout de suite après pour continuer de parler des amitiés toxiques. J'avais dit tantôt qu'on demanderait à notre psychologue et aux invités comment on sort de ça. Est-ce qu'on s'explique? Est-ce qu'on parle? Est-ce que ça ne donne rien? On parle de ça au retour. On parle ce matin des amitiés toxiques pour toute cette première heure. Quand l'amitié devient lourde, j'aime bien, je la répète, cette phrase de Patrice Cocro, un de nos trois invités, devrais-je dire, mais deux invités en studio, toujours se demander est-ce que cette relation me porte ou me pèse. J'aime beaucoup ça. Avec nous aussi, Geneviève Saint-Germain, auteure et conférencière, et au téléphone, Denis Doucet, psychologue. J'ai promis de vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation pareille? Est-ce qu'on se pousse à 100 000 à l'heure sans rien dire? Est-ce qu'on essaie de parler à la personne pour qu'elle sache au moins pourquoi on veut prendre une distance? On fait quoi? Denis d'abord, Patrice et Geneviève.
OK. Premièrement, dans une amitié malsaine, vous allez d'ailleurs, les relations malsaines en général, là, pas juste amitié, ça peut être au travail, en amour ou d'autres circonstances. Il y a toujours en dessous de ça de l'immaturité chez l'autre. La personne problématique, l'immaturité relationnelle. Fait que moi, j'ai découpé votre question en deux temps. Prévenir, détecter. Puis, quand je suis dans une relation, peut-être après que les autres invités auront parlé, on pourra aborder le qu'est-ce que je fais pour m'assurer qu'une relation demeure saine. Prévenir, détecter, c'est évidemment repérer les personnes qui ont tendance à être contrôlantes. Les navires qui coulent, vos autres invités en ont parlé, là, ceux qui s'accrochent après vous et que vous sortez de l'échange vidé et eux sont regorgés.
Ah, eux sont heureux.
Éviter les manipulateurs, les stratèges, ceux qui ont l'air d'être calculateurs dans l'échange. On a parlé des gens en vacances qui veulent tout partager à la scène.
Ouais.
Les girouettes aussi que j'éviterais. Ceux qui ont l'air de présenter un visage mardi, qui ont l'air d'en présenter un autre vendredi, puis qui ont l'air d'en présenter un troisième lundi d'après. Il n'y a pas grand stabilité relationnelle qui va s'en dégager.
En effet.
Les sournois. Les narcissiques, les passifs-agressifs, et on pourrait allonger. Tous ceux qui font beaucoup de remarques et de critiques sur tout et rien, moi, je les éviterais parce que, inévitablement, vous allez passer dans le tordeur. Ça sera pas long. Les personnes pour qui, auprès de qui vous vous sentez étrange, inconfortable, c'est plus ou moins plaisant, mais vous savez pas trop. C'est comme pas clair. Ça aussi, c'est un signal d'alarme. Votre énergie qui baisse, quand vous êtes content que l'échange est terminé, c'est pas bon signe.
Non, c'est fait.
En effet, en effet. Alors, j'aimerais quand même, parce que le temps passe tellement vite et on a des appels. J'aimerais entendre Geneviève et Patrice sur... Oui. On part, on se sauve à 100 000 à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait?
Mais j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup la clarté. Donc, sortir d'une relation d'apparence pour aller vers la transparence, quitte à ce que ça pète. Venez, moi, j'aime beaucoup, je disais à la blague, non seulement j'ai la mèche courte, j'ai plus de mèche. Alors, c'est rendu maintenant. Je vais dire carrément, mettre carte sur table, qu'est-ce qui se passe? Parce que dès qu'il y a une ambiguïté, une ambivalence, et une toxicité et le doute et tout ça, alors, M. Doucet parlait de girouette, ben ça, adressez-vous à la personne directement et confrontez la personne. Moi, je préfère confronter.
Moi, j'ai un bémol là-dessus, je te dirai pourquoi après.
Oui. En tout cas, moi, personnellement...
Ben, si c'est pour péter, ben ça va péter. Au moins, ça va être clair.
On le sent au niveau du plexus solaire aussi. Quand on est comprimé, quand on est encombré, quand on est dans le doute, qu'on se couche la tête sur l'oreiller, qu'on se met à spéculer. Et quand ce sont des relations où tout devient compliqué et fragmenté, donc il y a des obsessions de détails, on repointe des petites notes fuyées. Et quand la personne, en plus, on parlait d'avarice, moi je me souviens, c'est arrivé souvent avec la personne, après un show de théâtre que j'invitais, puis... Rien sur ce que je viens de faire. Rien. Aucun commentaire, rien. Retenir, ne pas être généreux, ne pas faire... C'est incroyable,
c'est
ça.
C'est effrayant.
L'absence de générosité, c'est des affaires les pires. Moi, je dis qu'il y a des gens avec qui ça sert à rien de discuter parce qu'ils sont pas rendus là. Et que quand, dans notre ressenti, on se dit, garde,
je suis pas bien.
Je suis pas bien, puis va me tenir avec cette personne-là encore, pourquoi faire? Parce que c'est pas une question de pas être généreux, mais qu'est-ce qu'une amitié, il faut que ça nous apporte quelque chose, là. Mm-hmm. Si ça nous apporte rien, juste du trouble et puis des mauvaises sensations, on n'a pas besoin d'expliquer, à comprendre
donc
pas.
Donc, on s'en va.
Et si la personne rappelle... Tranquillement, délicatement, puis on dit, pour le moment, moi, j'ai déjà fait ça, pour le moment, j'ai pas envie de te parler, mais peut-être qu'un jour, ça va revenir, puis on se reparlera, on s'expliquera. Je suis pas en mesure de t'expliquer en ce moment.
Geneviève, on disait à la pause, quel est le contrat? C'est quoi le contrat?
Oui, le contrat, ça, c'est intéressant.
C'est quoi le contrat entre
quel contrat,
entre
moi,
toi
j'ai pas avec cette personne-là?
Et la personne? C'est quoi le contrat?
Puis elle, c'est quoi son contrat avec toi?
Qu'est-ce qu'on fait ensemble, là? Ouais. Clairement.
Que c'est bien dit. Marlène se joint à la conversation. Bonjour, Marlène.
Oui, bonjour. Moi, c'était une amie au travail. Ensuite, on est devenus... On s'est séparés tous les deux. Alors, on a commencé à sortir, aller dans des bars ensemble, tout ça. Et moi, c'était toujours des petites craques quand elle était en boisson. C'était de la jalousie. Elle était jalouse de moi, de mon rythme de vie, parce que, bon, elle était un petit peu moins, mettons, financièrement à l'aise. Alors, tout ce que j'achetais, c'était, mon Dieu, t'as bien de l'argent, ou j'avais quelque chose, c'est bien, toi, tu vas encore voler la vedette, jusqu'au jour où, à un moment donné, elle est venue me rejoindre. Puis elle n'aimait pas, j'avais d'autres amis. Moi, je lui présentais, mais c'était vraiment une personne avec...
Donc, jalouse, possessive.
Oui, oui. Et puis, jusqu'au jour où elle est venue me rejoindre en boisson, j'étais avec mes amis, donc on va être là à telle heure. Et puis là, elle m'a dit, toi, tu fais des soupers pour juste te faire aimer. Puis elle était en transe. En transe. Ben, là, j'ai dit, c'est fini. Non, regarde, je comprenais même pas comment que tellement elle était fâchée, là. Puis c'était vraiment, fait que j'ai mis fin à cette... On s'entendait bien quand elle était pas en boisson.
C'est ça.
Juste nous deux.
Mmh. Ouais.
Si une de mes amies va venir souper avec nous, non. Ouais. Là, changer. Quand elle buvait, elle était un petit peu moins pire. Elle était plus en gang. Là.
Mais Marlène, il y a une expression anglaise qui dit avec des gens « With friends like that, who needs enemies? » Avec des amis comme qui a besoin d'ennemis? Parce que là, quand l'amitié devient aussi lourde... Donc, vous en êtes sortie.
Oui, ben moi, je ne l'ai plus rappelé, puis elle a essayé de me rappeler, puis j'ai pas répondu, mis fin à ça.
Bon.
Parce qu'il y a toujours des sous-entendus, mais c'est surtout quand elle avait pris un verre.
Oui, mais souvent,
quand
c'est ça, les gens.
Verre,
Et il y a des gens à qui on a beau dire, c'est fini, ils vont continuer de rappeler, puis ils vont là. Des fois, le rôle va être inversé, c'est eux qui vont dire, tu m'as fait de la peine, sans se soucier de la peine qu'ils vous ont fait avant.
Oui.
Vous, Denis Doucet, on en était là, finalement. Votre façon de régler ça, c'est quoi? On part, on sauve ou on essaie de s'expliquer? Ou est-ce que c'est au cas par cas?
Pour moi, il y a une distinction à faire entre des moments pénibles dans une amitié qui démarre mal, puis une amitié qui n'ira nulle part. Mmh. Là, on a affaire à quelqu'un qui a des traits de personnalité très ancrés chez eux. Alors, je suis un peu à mitoyen entre ce que disent vos deux autres invités. Mmh. Mmh. Si on a le sentiment que c'est une personne... Premièrement, ce que je dis souvent à mes clients, c'est quand tu vas t'adresser à cette personne-là, il faut que tu t'assures que tu n'es pas d'attente que ça va se résoudre. parce que tu n'as pas le contrôle sur le fait que ça va se résoudre ou pas. Ton attente doit se limiter seulement à « j'exprime la vérité de ce que je veux à compter de maintenant et peu importe que tu collabores, que tu me retournes la crête de bord en m'insultant ou n'importe quoi, je vais pas partir inconfortable à l'intérieur. Oui. » Fait que si quelqu'un est capable d'avoir cette affirmation-là et dire à l'autre « regarde, pour telle raison, si ça se corrige pas, moi, je vais mettre fin », c'est bon. Par contre, il y a beaucoup de gens pour qui ils ne se sentent pas capables de le faire. Mmh. Ou ils ont bien, se sont bien rendus compte, puis je le vois à travers les récits qu'on me raconte, qu'ils s'adressent à quelqu'un, comme votre autre invité Geneviève l'a dit, qui va faire la sourde oreille de toute façon et qui n'est pas du tout dans cet univers-là d'échange. Alors à ce moment-là, ça ne vaut pas la peine. Okay. On fait juste informer que c'est terminé.
Vous dites, il faut y aller sans attendre. C'est-à-dire y aller en disant juste notre vérité à nous.
Oui.
Et se dire, ben, peu importe comment ça va être pris, moi, je suis rendu là.
J'ai l'impression que toute relation féconde est basée sur le fait de ne pas accumuler. C'est comme, l'expression sortir ses vidanges, à un moment donné, faire le ménage, faire de l'espace. Mais si on accumule, s'il y a eu du non-dit qui a été trimballé, entretenu, puis qu'il y a toujours quelque chose qui n'a pas été éclairci, je trouve que ça mine et ça intoxique la relation.
Oui, maintenant, Geneviève, rapidement, on va prendre un autre appel. Est-ce que tu avais un commentaire à faire?
Non.
Bon, d'accord. Alors, Carole, au téléphone, bonjour.
Bonjour. Moi, en fait, j'ai été blessée dans cette amitié-là. J'y croyais beaucoup. Nous étions comme des âmes sœurs. On avait les mêmes points communs, les mêmes intérêts, etc., etc. Et on se voyait excessivement souvent, quasiment tous les jours. J'étais dans une période de chômage aussi. Puis elle était sur le dernier recours. Et
donc, très fusionnel,
bon,
là.
Oui, c'était très fusionnel. Je payais pour elle aussi, parce que puisqu'elle était sur le dernier recours, je la voyageais. En tout cas, j'étais très consciente de tout ça, mais en étant consciente, je voyais pas d'objection, je voyais pas de mal. C'est des gens à l'extérieur de moi qui me disaient que j'étais dans une relation toxique et je ne le voyais pas ou je l'acceptais pas. Jusqu'au jour où elle a joué avec la maladie pour aller chercher mon attention et tout ça. Puis au début, je l'ai cru. C'est mon amie. Bon, pourquoi je la douterais? Je l'ai pleuré parce que bon, son temps était compté. Et
dites-moi pas que c'était pas vrai.
Je lui ai demandé de l'accompagner. Dans ses épreuves, dans ses traitements, dans ses visites chez le médecin, et qu'elle a refusé. Et c'était un déboulement de mensonges, de ci et de ça. Ouf. Et là, c'est là que j'ai remis l'amitié en question.
Carole, elle vous avait menti? C'était pas vrai qu'elle était malade?
Exact.
Ça s'apparente un peu à ta maladie mentale. Est-ce qu'on s'entend un trouble mental, là?
Oui.
Ce niveau-là de mensonge, là?
Puis une forme d'abus extrême, là. Extrême de quelqu'un qui a tellement besoin d'attention et de se faire aimer. J'aimerais entendre Denis Doucet là-dessus.
Ben, c'est sûr. Quand on est au point où ce qui est décrit dans le témoignage, on est vraiment dans c'est délibéré de la part de la personne. Alors, si c'est délibéré, c'est que la personne, maintenant, elle est devenue ça. Elle est devenue une stratège qui joue des games relationnels pour essayer d'avoir des gains au niveau...
C'est pas un trouble mental, ça, Denis?
Oui, ça frôle ça. J'aime pas utiliser ce terme-là quand je suis pas face à une vraie personne physique.
Ouais.
Mais effectivement, on entre dans cette région-là. Là.
C'est du gambling relationnel.
Ah, c'est effrayant.
Oui.
C'est effrayant.
Non, mais rends-tu compte du degré de carence pour que quelqu'un fasse ça? Là,
c'est du gros mensonge. Écoute, déjà, un petit mensonge, c'est compliqué de s'en sortir des fois. Ouais.
Rends-tu compte comment est carencée la personne?
Oui, énormément.
Oui, effectivement.
On va devoir s'arrêter de nouveau pour la dernière pause avant la fin de l'heure sur ce sujet passionnant, fascinant. Est-ce que vous avez déjà vécu une amitié toxique? Comment se sortir d'une amitié toxique et comment reconnaître une amitié toxique? Sur les amitiés toxiques, dernier bloc, Mathieu est au téléphone pour nous parler de ce genre d'amitié. Mathieu, on vous écoute.
Oui, bonjour. Je sais pas par où commencer parce que ça a été une relation assez spéciale. Dans le fond, je travaillais plus jeune dans un emploi et là, je n'aimerais pas son nom, mais cette personne-là, tranquillement, bon, on avait des affinités, puis on est devenus amis. Puis, au gré du temps, tu sais, il était tout le temps, bon, il me payait, tu sais, le resto quand on allait quelque part, puis des affaires de même. Puis là, tu sais, je trouvais ça correct, mais tu sais, sans plus. Puis, au début de notre amitié, ça, ça m'a vraiment marqué. Il me demandait, il dit, Mathieu, il dit, est-ce que tu me trouves beau?
Oh, ambiguïté. Ambiguïté.
Ouais, il dit, est-ce que tu me trouves beau? Puis, sur le coup du moment, tu sais, cette personne-là est charismatique, mais je suis pas prêt à dire que, bon, c'est relatif à chaque personne. Mais moi, je trouvais pas que en termes de beauté, c'est une belle personne, mais c'est une personne qui avait beaucoup de charisme. Là, j'ai dit, ah, mais t'as beaucoup de charisme. J'ai pas dit qu'il était laid. J'ai dit, ça m'a pris un certain moment avant de répondre. Puis je dis, oui. Ah, ben, t'es charismatique, là. Fait que j'ai l'impression que dans mon nom dit, j'ai comme dit un peu...
Mais qu'est-ce que vous sentiez, Mathieu, quand on vous a posé cette question-là? Tu sais, un ami de gars qui te demande si
ben,
tu te trouves
beau, inconfortable, très inconfortable, puis je ne l'ai pas senti comme si c'était une attirance vers moi. Je l'ai senti comme s'il avait besoin de valider okay. Si lui, il se trouvait sans même longueur d'onde, on va dire.
Okay.
Mais le gros problème, c'est que suite à ça... Tu sais, lui, il avait son petit frère, puis des fois, on allait chez eux, puis son frère, il avait peut-être 2 ans de moins que lui, puis moi, je venais m'acheter un véhicule. Puis là, son petit frère, il disait, hey, Mathieu, ton char est donc bien beau, là, puis là, ça lui, tu sais, il disait rien, puis il était content que j'ai un beau char. La semaine d'après, ah, il s'achète un char encore mieux que le mien.
Ah, là, ça reste comme ça. Compétition.
Mais là, écoute, ça reste comme ça, puis à un moment donné, au gré du temps, on travaille, puis avec les années passent, puis il y a tout le temps une certaine hey, tu m'as pas dit salut en poste tantôt, tu sais, dans le fond de mal, tu sais, il te fait sentir mal. Puis moi, le problème, c'est que je l'aimais beaucoup, cette personne-là.
Ouais,
puis j'étais un peu naïf, puis il me poussait des craques, puis je me sentais inconfortable, puis il me manipulait vraiment, vraiment.
Ouais. Mathieu, j'aurais une question à vous poser, puis j'aimerais aussi entendre les invités réagir à votre histoire. Aujourd'hui, c'est fini avec ce gars-là?
Oui, c'est lui qui m'a flushé, finalement.
En plus?
Ouais.
En plus?
Ouais.
Sous quel prétexte?
Il était supposé venir souper chez nous avec sa conjointe, puis parce que sa conjointe était extrêmement difficile, là. Fait que là, elle voulait manger juste des pâtes. On avait dit qu'on préparait du spaghetti. Elle dit, ah, mais j'aime juste la sauce du restaurant. Puis là, il me disait que
bref,
bon, mais...
Ouais. Bref,
vous êtes bien débarrassé.
C'est ça, c'est le cas de le dire, c'est incroyable. Denis, une réaction à l'appel de Mathieu?
Ben, je dirais, sans doute qu'il a eu affaire à quelqu'un qui est plutôt narcissique.
Oui. C'est à toute évidence.
Parce qu'il a utilisé, c'est des relations utilitaires.
Oui.
Il a utilisé l'auditeur le temps qu'il en avait besoin. Oui. Et ensuite, souvent, on va observer que les narcissiques mettent fin aux relations avec fracas. C'est un signe, là, quand il... Boum! Ça se termine d'un coup. Ça sort de nulle part et on ne voit pas trop ça venir. Puis c'est des caractères... Ils ne veulent pas se faire rejeter. Alors, c'est eux qui
prennent les devants.
C'est intéressant, ça. OK. Donc, quelqu'un qui vous...
Mais ils vont mettre fin sans autre explication.
Non, non.
Ça, c'est arrange-toi avec tes pensées.
Ben
toi,
oui,
là.
C'est ça, exact.
Ouais.
Il veut garder la position haute.
Ben oui.
C'est ça.
Ben oui.
Ouais. Alors, on fait quoi pour avoir des belles amitiés? On est presque rendu à la conclusion. Il nous reste 2 minutes pile poil. Alors, on va commencer tout de suite la conclusion. Denis Doucet, comment bien choisir ses amis ou à tout le moins comment reconnaître la personne qui pourrait être une bonne amie ou un bon ami pour longtemps et pour la vie, quoi?
Pour ce qui est de reconnaître, tantôt, j'avais parlé de prévenir, détecter. Là,
oui.
Je vous parlerai un petit peu plus de quelques ingrédients pour ce qui est de vous amorcer une relation. Vous voulez qu'elle garde un ton sain. Mmh. Alors, assurez-vous que vous-même, et soyez alerte vis-à-vis de l'autre, qu'il y a une constance, une fiabilité, une prévisibilité chez l'autre dans son comportement.
Ah, oui.
Et qu'on puisse compter sur lui, non pas pour s'appuyer comme un poteau,
non.
Mais plutôt parce qu'il est présent quand c'est le temps.
Exactement.
Il y a la question de rester soi-même dans une relation,
oui.
Très important. Si vous avez le sentiment que vous portez toujours un masque pour maintenir la relation, il y a quelque chose qui sonne faux. On devrait observer aussi du respect mutuel.
Mm.
L'échange devrait avoir un ton, une attitude qui est plus mature que les petites games là, de stratégie, de jalousie, de bouderie, ces choses-là. Puis la nourriture d'une amitié, c'est que ça permet de s'explorer à voix haute sans jugement. Fait que moi, j'aime bien quand dans une relation d'amitié, l'autre, au lieu de me servir sa recette que lui emploierait, qui m'aide à me questionner pour que moi, je précise vers où je m'en vais. Exactement. Fait que j'aime mieux quelqu'un qui s'adresse à moi en me disant, OK, mais qu'est-ce que tu as plus de besoin là-dedans ou qu'est-ce qui est prioritaire dans
c'est ça? C'est la bienveillance, oui, puis l'écoute.
C'est le mot que j'allais dire pour résumer oui. tout ce propos de toute l'heure, la bienveillance.
Il y a autre chose que
le
je
mot de
dire.
La fin, ça va être rapido. Il nous reste 20 secondes.
Je dirais que les relations saines sont comme la vie. C'est comme la musique pour moi. Dès qu'il y a de l'interférence, de la distorsion ou de la dissonance, on peut le sentir rapidement, ça griche. Il faut remettre ça sur le bon poste.
5 secondes,
loyauté, réciprocité, bienveillance.
Merci. Merci, Denis Doucet, au téléphone. Merci à mes deux invités, Geneviève Saint-Germain et Patrice Cocro, sur l'amitié. Et bonne chance dans vos amitiés, chers auditeurs. De retour après les nouvelles et la pause.